L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je profite de ce début d'émission pour vous dire que la semaine prochaine, nous serons en public et en direct au studio 105 de la Maison de la Radio et que toutes les personnes qui souhaitent venir assister à cette émission peuvent s'inscrire en ligne sur le site www.maisondelaradiosansseparation.fr. Nous allons commencer par nous intéresser au renoncement de François Hollande. Le président de la République a annoncé jeudi qu'il ne serait pas candidat à un deuxième mandat. Au cours de son allocution d'une dizaine de minutes, il a dressé un bilan de son action en revendiquant des comptes publics assainis et un modèle social français conforté. Il a présenté la signature des accords de Paris comme un succès dans la lutte contre le réchauffement climatique et s'est félicité de l'élargissement du mariage aux couples de même sexe. Il a affirmé avoir maintenu la cohésion nationale face au terrorisme islamiste et revendiqué le déploiement des forces armées à l'étranger contre cette menace. Le président de la République a rappelé son engagement au niveau européen et s'est présenté comme un des piliers de la survie de la zone euro et de la régulation de la finance. François Hollande est revenu sur sa promesse de faire baisser le chômage et a annoncé que les résultats arrivaient même s'ils demeuraient à un niveau trop élevé. Il a affirmé regretter sa proposition de déchéance de nationalité pour les terroristes car ce débat a divisé les Français au lieu de les rassembler. Il a présenté son renoncement à sa réélection comme le geste d'un socialiste engagé, conscient de ne pouvoir rassembler les forces de gauche face à un François Fillon dont le programme met en cause le modèle social et les services publics, a-t-il déclaré. Le Premier ministre Manuel Valls a exprimé son respect d'un choix digne mûrement réfléchi et s'est engagé à défendre le bilan du quinquennat. Emmanuel Macron a salué une attitude courageuse et exprimé son respect à l'égard de la personne et de la fonction. Le candidat des Républicains, François Fillon, a souligné l'échec patent d'un quinquennat qui s'achève dans la pagaille politique et la déliquescence du pouvoir. Le Parti socialiste a organisé hier sa convention nationale de la Belle Alliance Populaire, mouvement lancé en vue de l'organisation de la primaire de la gauche. Manuel Valls a annulé sa participation après l'allocution de François Hollande, alors que les candidats déclarés Benoît Hamon et Arnaud Montebourg ont décidé de ne pas s'y exprimer. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, a exhorté Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à participer à cette primaire de janvier au nom de la réalisation de l'unité de la gauche. L'ancien ministre de l'économie a rejeté cette invitation dans un entretien publié par le journal du dimanche, alors que 45% des sympathisants de gauche disent souhaiter que Manuel Valls soit le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2017, selon un sondage IFOP. Sur cette question, Thierry Pech.
Bien, la décision de François Hollande, personnellement, m'a surpris, mais pas ses raisons. Je pense que, comme beaucoup, on pouvait penser qu'il allait être candidat à sa réélection, parce que la politique, c'est toute sa vie, tout simplement, et que mettre fin à cette carrière politique était une décision difficile. Mais c'est une bonne décision, car, comme le disent les amateurs de rugby, la cabane était tombée sur le chien depuis un bon moment, déjà. Alors, c'est l'heure du bilan. Et un bilan, c'est pas facile à faire parce que on peut pas simplement le faire à la lumière des engagements qui avaient été pris, de ceux qui ont été honorés, de ceux qui n'ont pas été honorés. Ça doit se faire aussi à la lumière de circonstances et ça doit se faire à la lumière du contenu d'abord. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, alors qu'on fait des résumés caricaturaux hein, du bilan de Hollande, j'écoute François Fillon parler de quinquennat d'échecs, d'échecs patents, etc. Mais quand je regarde le programme de François Fillon, j'observe que beaucoup de ce qui a été fait par Hollande ne sera pas défait. Je vais faire une petite liste. Je pense qu'il ne retouchera pas au CICE, par exemple. S'il est élu, il le transformera en baisse de cotisation, ce qui était d'ailleurs dans l'esprit d'un certain nombre de socialistes. On ne retouchera pas à la garantie jeune, on ne retouchera pas à la généralisation de la complémentaire santé, on ne retouche, on ne retouche on ne retouchera pas, je pense, à la loi Macron, on ne retouchera pas aux lois sur la transparence de la vie publique, on ne retouchera pas au cumul des mandats, on ne retouchera pas à la dynamique de régionalisation qui habitait la réforme territoriale, on ne retouchera pas non plus, si ce n'est à la marge, ou en tout cas pour faire quelques effets d'annonce, au mariage pour tous. Donc il y a une quantité de réformes qui ont été faites par les gouvernements Hollande qui sont, je crois, qui vont s'inscrire dans la durée. Mais la gestion politique de ce quinquennat a été particulièrement calamiteuse, particulièrement depuis les attentats du 13 novembre et l'épisode de la déchéance de la nationalité. Je crois que une des grandes faiblesses de François Hollande, c'est qu'il est convaincu que pour réformer, il faut pas le dire. Que pour faire des réformes, il faut pas les inscrire dans un récit. Or, moi, je suis à peu près convaincu du contraire. La difficulté, c'est que pour se faire élire dans ce pays, il vaut mieux pas être clair. Parce que si on est clair, on divise son camp. Et sous la Ve République, pour gagner, il faut l'unir. C'est ça qui est difficile. François Hollande a été pris dans un piège où d'autres avaient été pris avant lui. Et je pense que c'est ça qui aura pesé très lourdement sur son quinquennat. C'est que les conditions de formation de sa majorité ont été marquées par des élans de radicalité. Mon ennemi, c'est la finance. Hein, vous vous souvenez de ça. Je vais renégocier le TSCG, etc. Et puis, arrivé au pouvoir, et bien sûr, il a fallu atterrir. Il a fallu s'inscrire dans le jeu des réalités, des pressions, de l'Europe. Et c'est devenu évidemment beaucoup plus compliqué. Et donc, au moment où il faisait campagne, il n'a pas demandé de mandat aux électeurs pour faire un certain nombre de réformes qui auront pourtant marqué son quinquennat. Par exemple, la loi El Khomri, que personnellement j'ai soutenue, mais dont il faut bien reconnaître qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune délibération dans la campagne électorale qui avait précédé. Par exemple, la loi Macron. Par exemple, les débats qu'on a eus sur le travail du dimanche. Rien dans la campagne de François Hollande ne lui donnait mandat pour faire ces réformes. Et c'est une des fragilités presque matricielles, génétiques de son quinquennat. Alors, je pense qu'il faut... Il y a un autre commentaire qui s'impose, c'est que le statut du président de la République a à l'évidence changé. Pas depuis François Hollande, en réalité depuis l'alignement du mandat présidentiel et du mandat législatif. On l'avait déjà vu avec Sarkozy. Le président, c'est ce que me confiait un conseiller de François Hollande récemment, il disait le président jupitérien, c'est fini. Le président qui parle peu, qui est au-dessus de la mêlée, qui n'est pas dans le rythme et l'horizon, si vous voulez, du député, du mandat législatif, mais dans un horizon supérieur, qui s'inscrit dans le temps long. Tout ça, c'est terminé. L'alignement des deux mandats a fait du président une espèce de paratonnerre qui prend la foudre tous les jours, parce qu'il est dans la mêlée politique tous les jours. Et ça doit nous interroger. Alors, c'est pas simplement le fait de l'information continue, des réseaux sociaux. Bien sûr qu'il y a tout ça en plus, mais ça déclenche une espèce de concentration de la critique et des feux de l'affrontement politique sur le président de la République, qui fait de cette personne, de cette fonction, une fonction fragilisée. L'anti-sarkozisme avait été hystérique, l'anti-hollandisme l'a été plus encore. On ne peut pas être un président normal dans une époque aussi anormale, et donc je pense qu'on aurait besoin de réfléchir au statut du président de la République.
Michaela Wiegel.
Oui, alors je pense que ce renoncement de François Hollande s'insère dans une double séquence qui commence justement avec la chute brutale, la sortie brutale de Nicolas Sarkozy. J'ai vraiment l'impression que c'était un couple antinomique, mais un couple dont l'un avait besoin de l'autre. Et je ne serais pas étonnée que la décision de François Hollande de ne pas se représenter est aussi une conséquence qu'il a vu que Nicolas Sarkozy a livré un peu la bataille de trop et qu'il a perdu et qu'il voulait s'épargner cette même humiliation. Et je pense aussi, et ça c'est un des leitmotifs du mandat de François Hollande, dont effectivement le bilan n'est pas nul, c'est pas un mandat pour rien, mais je crois la grande erreur de départ, c'était au départ un mandat pour défaire, c'est-à-dire un mandat pour défaire ce que Nicolas Sarkozy avait fait, et ça donnait justement du coup un très très mauvais départ à ce mandat. Et je pense que du coup là, une fois qu'on avait défait ce qu'on avait promis, il n'y avait plus aucune base pour une crédibilité. Alors, on a beaucoup comparé la prestation télévisée de François Hollande à celle de Jacques Delors, à ce fameux entretien avec Anne Sinclair, où il a déroulé de façon assez assez cohérente tout le programme de réforme et de processus d'intégration européenne pour dire à la fin, ben oui, mais je n'ai pas le soutien de mon parti et donc je ne me présenterai pas. Et on peut dire qu'en quelque sorte, la prestation de Hollande, elle fait écho à cela, puisqu'il a aussi dénombré toutes les mesures qu'il avait prises et il a conclu pareil que il savait que sa propre candidature portait un risque vu l'éclatement de la gauche et je crois il a dit qu'il ne voulait pas se résoudre à cet éclatement. Alors je trouve c'est quand même assez comment dire triste que aussi bien Jacques Delors que François Hollande sont obligés à un moment donné de se frotter à cette réalité qu'ils n'avaient pas dans leur propre camp de suffisamment de soutien pour un programme décidément européen. Le renoncement de Jacques Delors à l'époque était perçu comme une immense déception en Allemagne. Aujourd'hui, il y a quand même plutôt une sorte de soulagement parce qu'on a bien vu qu'on n'arrivait pas à faire avancer l'Europe avec François Hollande. Alors sur son rôle, il a mentionné, il a même dit que c'était lui qui avait en quelque sorte sauvé la Grèce d'une sortie de l'euro. Je pense que sur ce point, il y a vraiment une grosse différence d'appréciation parce que la France avait comme l'Allemagne travaillait sur un plan B. Il y avait bien sûr aussi en France un scénario qui était étudié, qui consistait à une sortie de la Grèce de la zone euro. Et c'était une décision commune de faire en sorte que la Grèce puisse rester. Et je pense que le rôle de Barack Obama est probablement plus grande que le rôle qu'a joué François Hollande pour le maintien de la Grèce dans la zone euro.
François Bujon de l'Étang.
Le renoncement de François Hollande s'inscrit effectivement dans un contexte politique français, je crois, très très intéressant, qui voit plusieurs pages, beaucoup de pages tournées à la fois, finalement. Il y a une réelle logique, je pense, dans la décision de François Hollande d'avoir décidé de ne pas se représenter. Il sentait bien, sans doute, que, je ne veux pas être son interprète, mais qu'il n'y avait plus pour lui d'oxygène, il n'y avait pas d'espace politique dans lequel se mouvoir. Cet espace s'était rétréci au cours des semaines précédentes, et au fond, l'agonie, si j'ose dire, de cette présidence avait commencé il y a déjà quelque temps, avec simplement la décision, par exemple, à gauche, de faire une primaire du Parti Socialiste à laquelle devait se soumettre le président sortant. L'idée de voir un président en exercice devoir se présenter à une primaire, tout en continuant d'exercer sa fonction, avait quelque chose d'extraordinaire. Et c'était au fond le glas de cette présidence qui sonnait à ce moment-là. Aujourd'hui, il choisit la solution probablement la moins coûteuse, la moins humiliante. Il est probablement moins humiliant de devoir renoncer à se présenter que de courir le risque d'être battu à la primaire ou d'arriver en je ne sais quelle position au premier tour de la présidentielle. Donc en un sens, le président Hollande a cherché à minimiser ses risques. C'est un homme qui, on peut dire ce qu'on veut du quinquennat, et je comprends que Thierry souligne un certain nombre de choses qui en resteront. Il reste aussi que M. Hollande a eu beaucoup de mal, sauf dans les moments de deuil, comme après Charlie ou après le Bataclan, mais il a eu beaucoup de mal constamment à incarner la fonction présidentielle. Et il n'a jamais, en tout cas, conduit une ligne politique réformiste claire. Il a été tenté par la réforme, mais toujours en restant ce premier secrétaire du Parti Socialiste qu'il avait été pendant 11 ans et qui a cherché à maintenir à tout prix l'unité du parti en faisant passer probablement cette considération-là avant l'urgence réformiste, je dirais. Alors j'ai le sentiment qu'une page se tourne qui est au fond cette page de l'unité du Parti Socialiste. beaucoup de pages se sont tournées en même temps. Nous avons vu tourner 15 jours plus tôt la page de la Sarkozy, avec la défaite de l'ancien président au premier tour de la primaire de la droite et du centre. Nous avons vu tourner définitivement la page de la Chiraki, avec la défaite de Monsieur Juppé et la sortie de la scène politique qui va s'en suivre, et avec la victoire d'un Fillon qui, lui, ne s'est jamais identifié véritablement à la Chiraki et qui est un homme politique d'une autre sorte. Et puis là, la page de l'unité du Parti Socialiste, sans doute, du Parti Socialiste tel qu'on l'a connu sous Mitterrand et après Épinay, puisqu'on voit mal comment la sortie de la scène de Monsieur Hollande pourrait ne pas s'accompagner de la fragmentation de la gauche, qu'il est le premier à dénoncer d'ailleurs, il l'a fait dans son allocution, et avec la division idéologique très forte au sein du Parti Socialiste qui va évidemment apparaître dans la primaire.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que Thierry fait un rappel quelques textes dans la litanie qu'il a évoquée, qui est assez courte d'ailleurs. Je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne me séduisent pas dans les réformes qui ont été faites. Il y en a que j'ai soutenues ici même, notamment le CIC, mais par exemple
et la loi Macron.
Comment la loi Macron? Oui, mais enfin la loi Macron, je l'ai soutenue, mais j'ai pas soutenu grand chose. Hein. J'ai soutenu l'écart.
Et le travail du dimanche.
Oui, mais le travail du dimanche, justement, on ne l'a pas. On n'a pas le travail du dimanche et Madame Sauvage est toujours en prison. C'est ça le problème de Monsieur Hollande. Moi, ce qui me frappe, c'est ce qui est assez tragique. J'ai pas du tout aimé les commentaires sur la dignité. Enfin, ça a été les mêmes commentaires qu'on avait fait et que j'avais fait d'ailleurs en me laissant surprendre au moment du départ de Jospin. Jospin était parti en race campagne et avait laissé ses troupes au soir du premier tour de l'élection présidentielle quand il avait été évincé par Monsieur Le Pen. Et là, alors tout le monde a parlé de dignité. Là, on parle de dignité. J'ai vu un homme qui s'attendrissait sur lui-même, qui pleurnichait un peu sur le fait qu'il était obligé de partir, alors qu'il trouvait que le bilan était très bon. Donc, en réalité, parce que le message de Hollande, c'était « mon bilan est bon, mais je ne suis pas à la hauteur ». C'était quand même pas terrible comme message. Sur le fond, je crois que c'est ça le problème. Ce qui est tragique dans cette affaire, c'est que vraiment, Hollande n'était pas à la hauteur. Il avait des qualités. Alors, j'écoutais Gérard Courtois sur France Culture, je crois, vendredi, et Gérard Courtois, qui est un analyste très fin, disait quand on avait une conversation avec François Hollande, on était frappé par l'intelligence de l'analyse politique, etc. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Je crois qu'Hollande est un être subtil, extrêmement fin, manœuvrier. Bon, mais c'est pas ça, la présidence. Et sur le fond, je crois qu'il avait vraiment accumulé un nombre de défauts qui fait que ça n'a pas, c'est pas simplement au moment des attentats que ça a commencé, ça s'est dégradé depuis le premier jour, continuellement par une espèce d'accumulation d'erreurs, de manœuvres, de fausses affaires entre les Sandans, Leonarda, enfin il y a eu une accumulation progressive qui a conduit à un désamour total des Français. Et si on fait la matière de tout cela, on voit quels sont les défauts. D'abord, curieusement pour un homme qui était un bon parlementaire, il ne savait pas parler. Je veux dire que la parole de François Hollande en public est une parole blanche, insignifiante. C'est une espèce de gazouillis qui n'engage pas. Deuxièmement, il ne savait pas orienter. Vous n'avez jamais quelqu'un qui vous dit « voilà où on va et où on ne va pas ». Quelqu'un qui fait toujours, il met un peu tout le monde d'accord, etc. Et puis, et il raisonne marginalement. Ensuite, il ne sait pas trancher. Alors le fait de ne pas savoir trancher, c'est impressionnant. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, l'épisode emblématique a été Leonarda, qui est révélateur de quelque chose de beaucoup plus profond et de constant. De constant chez lui, j'hésite, même quand il voit Poutine, il ne dit pas « je ne reçois pas Monsieur Poutine », il dit « j'hésite ». Et de manière d'ailleurs habilement à provoquer la réaction de Monsieur Poutine qui dit « je ne viens pas ». Ah, c'est pas moi qui l'ai fait. Bon. Ensuite, et ça, c'est très grave. Il ne tient pas parole. Et ça, je me rappelle ce qu'avait dit Michaela ici même à propos du livre. C'est quelqu'un, ce qui m'a frappé, c'est que constamment, les propos du président sont démentis 6 mois, 9 mois après. Sur le plan intérieur, croix de bois, croix de fer, les équilibres seront maintenus au bout de 6 mois. Bon, c'est pas le fond qui compte. Enfin, le fond, c'est important, bien sûr, mais c'est que, au bout de 6 mois, on s'est pas maintenu et on s'en fout. Alors c'est très ennuyeux sur le plan intérieur, ça a été catastrophique, comme le rappelait Michaela, sur le plan du franco-allemand. Parce que l'attitude vis-à-vis des Allemands, ça a été de dire, je dis à Kohl, à Madame Merkel ce qu'elle veut entendre, et puis j'en fais qu'à ma tête, et je fais rien, rassurez-vous frondeur, je n'applique pas. Bon, résultat, on a perdu quand même tout crédit dans une Union européenne où la parole donnée compte, où la relation de confiance entre les personnes est importante, donc ça ne va pas du tout. Mais enfin, et c'est là-dessus que je voudrais insister en terminant, je pense que, et c'est le problème qui se pose à l'avenir, qu'a-t-il voulu faire? Il le dit très bien dans son dernier propos, il a voulu réaliser l'unité. Et il dit, je n'ai pas réussi l'unité de la gauche. Hein, je parle, ce que je comprends, c'est son travail. Je n'ai pas réussi, ma personne finit par diviser, donc je me retire. Mais je me demande si le problème qui était celui de François Hollande était de réaliser l'unité entre des gens qui fondamentalement n'étaient pas d'accord. Les deux pôles, c'est Macron et Mélenchon. Bon, à l'intérieur de ça, il y a des mini-pôles, si je puis dire, Valls et Montebourg. Mais le problème, c'est qu'il y a à gauche, ce qui n'est pas le cas, on en reparlera peut-être dans un instant, ce qui n'est pas le cas à droite. Ça ne se présente pas de la même manière à droite. Il y a une question de logique du logiciel. Et là, on ne peut pas, comme dirait Malraux, mettre un demi-fantassin dans un demi-char en espérant la victoire. Et donc, le grand défaut de Hollande, c'est de ne pas avoir dit deux choses. D'une part, il faut choisir une logique d'économie ouverte, libérale, et en tirer les conséquences, et on voit bien que ça n'est pas fait, il suffit de voir les conditions du budget actuellement, et en même temps, c'est l'autre défaut, qui est également celui de Valls, de ne pas avoir dit, quand on fait ce choix, voilà ce qu'un homme de gauche peut obtenir de ce choix. Ne pas avoir tenu un discours de gauche. Il a tenu un non-discours venu de la droite, je fais des concessions que m'impose la droite, le patronat, etc. Donc c'est pas présentable, et puis on se débrouille avec ça, et ça a été totalement démoralisant pour la gauche et pour le pays.
Deux choses, un homme d'image avec qui je dînais hier me conseillait une expérience que j'ai faite et que je recommande, de prendre le discours de Hollande et de le regarder, sans coupant le son.
Ah oui, ça m'arrive souvent.
Et le langage corporel mérite d'être écouté, si j'ose dire, ou en tout cas. Et l'autre chose, c'est quand même, je suis étonné qu'aucun de vous n'ait mentionné les conditions du départ. Leonardas, ça ne tient qu'au président lui-même. Mais les conditions du départ du quinquennat, c'est-à-dire la manière dont Martine Aubry, en conservant le Parti Socialiste et la désignation des candidats, a mis dans les pattes de François Hollande ce poison épouvantable qu'a été le groupe parlementaire socialiste, qui, dès le début, n'a pas cessé de lui rendre la vie impossible. Thierry Pêche.
Non, mais ce serait faire beaucoup d'honneur à Martine Aubry de lui faire porter cette seule responsabilité. Je pense que...
Seule, non.
Non, non, mais je pense que l'hétérogénéité de la majorité qui s'est construite en 2011-2012, comme celle qui est en train de se construire si jamais Fillon gagne la présidentielle aujourd'hui à droite. On y reviendra tout à l'heure. Moi, je ne crois pas du tout qu'elle soit homogène. Cette hétérogénéité, elle a une construction, une cause quasi systémique. Vous ne pouvez pas gagner sous la Ve République une élection comme l'élection présidentielle sans rassembler votre camp. Donc vous êtes marchand de radicalité pendant 6 mois. C'est ça qui s'est passé. Il n'y a pas besoin seulement de Martine Aubry pour distribuer les investitures. Bien sûr qu'elles auraient pu être distribuées autrement. Mais enfin, personne n'obligeait Hollande à dire « mon ennemi, c'est la finance ». Personne n'obligeait Hollande à dire « je vais renégocier le traité budgétaire européen ». Donc, si tout ça a été dit, c'est parce que ça soudait des camps qui étaient assez divisé, qu'il était déjà assez divisé. Et donc les frondeurs étaient en germe dans la campagne qui a été faite. Mais encore une fois, il aurait fait une autre campagne, il aurait peut-être perdu. Donc réfléchissons de façon non psychologique. Je trouve qu'il y a beaucoup de psychologie, beaucoup trop de psychologie dans nos débats aujourd'hui, pas ici seulement, en général, sur la sortie de Hollande, etc. Réfléchissons un peu politiquement, institutionnellement. Le problème n'est pas un déficit de personnalité, d'incarnation, que sais-je. Je crois que ça, c'est résiduel. Mais Sarkozy aussi avait des problèmes. Et Chirac aussi avait des problèmes de roi fainéant. Bon. Donc le problème n'est pas là, je ne crois pas. Par ailleurs, maintenir l'unité, François Bujon nous dit Hollande a cherché à maintenir l'unité du parti. Non, pas du tout. Je veux dire, il n'aurait pas fait de politique de l'offre. Lorsqu'il a lancé une politique de l'offre, il a cassé l'unité du parti. Il n'aurait pas fait le CICE, il n'aurait pas fait le pacte de responsabilité. Il est évident que ces mesures étaient des mesures qui cassaient sa matrice électorale. C'est quelqu'un qui a conduit une politique qui conduisait à casser sa majorité de départ. Alors évidemment, il ne l'a pas dit. Il a été muet. Il n'a pas raconté le récit de ce qu'il faisait aux Français. Il n'a pas donné de direction. Là-dessus, on peut se retrouver. Mais ne racontons pas qu'il a maintenu l'unité du parti. Il a fait tout le contraire. Et c'est ça que lui reprochent les frondeurs.
Je ne cherche pas à le transformer en victime, mais quand même, commencer un quinquennat avec un croche-pied de Martine Aubry et finir avec Valls qui vous pousse dans l'escalier, ça ne doit pas aider. François Bugeon de Lévy.
Oui, ça ne vous surprendra pas, mais je ne suis pas d'accord avec Thierry sur ces différents points. D'abord sur le premier, qui est qu'on ne peut parler que de politique en faisant abstraction des personnalités. Ça, c'est un rêve. La politique est une affaire d'hommes, tout autant qu'une affaire d'idées. Et c'est la rencontre, justement, entre des hommes et des idées qui fait la politique. Donc, il n'est pas possible de faire abstraction des personnalités, pas plus de celles de François Hollande que de celle de Nicolas Sarkozy, qui a joué un rôle absolument éminent dans sa propre défaite politique, ou que celle de qui vous voudrez, d'Alain Juppé ou de Jacques Chirac. Les personnalités sont très importantes, et je crois que dans le cas de François Hollande, sa personnalité propre a joué un rôle qui, justement, a beaucoup contribué à son échec final. Je ne veux pas revenir sur l'épisode navrant du livre de M. Davet, de M. Lhomme, le président n'aurait pas dit ça, mais c'est vraiment une affaire de personnalité. Et beaucoup d'autres épisodes, Leonarda en est une autre aussi. Voilà. Et puis par ailleurs, je maintiens que le fait de maintenir l'unité du parti tout en prenant le risque de faire des propositions qui le divisent, mais qu'ensuite on cherche à rattraper en compromettant ou en le divisant, a été quand même une considération très importante dans son action et qui n'était probablement pas compatible, en effet, avec ce qu'il cherchait à faire.
Michaela Wiegel.
Alors, en Allemagne, il usage que le chancelier ou la chancelière et aussi la présidence du parti. Et au départ, j'avais toujours pensé, c'est un peu bizarre, mais avec Hollande, justement, on a compris pourquoi c'était tellement important. Et on le voit là dans les premiers pas de François Fillon, que effectivement, c'est une importance primordiale de s'assurer du soutien du parti et notamment des investitures qu'on ait son mot à dire. Et j'avoue que je reste toujours sidérée de ce choix de Harlem Désir. Je n'ai pas compris dans l'entre-deux entre Martine Aubry et François Hollande qu'on n'ait pas placé quelqu'un au parti qui avait la force, justement, d'aider le président élu. Et donc, c'est effectivement des erreurs très importantes. Et en même temps, il a accordé tout de suite tous les entretiens à nos fameux journalistes dès le départ.
Jean-Luc Bourlange.
Oui, pour vous répondre, Philippe, je crois que vous avez tout à fait raison de dire que ça a mal commencé du fait que Martine Aubry lui a l'a placé devant une situation difficile et notamment lui a imposé cette volée d'écologistes conduite par cette dame qui était ministre du Logement. Donc, moins qu'on puisse dire que c'était vraiment un caillou dans la chaussure de Hollande. Mais il y avait une manière de s'en tirer qui était très précise. Il pouvait pas, statutairement, il pouvait pas remettre en cause ces accords. C'est évident. C'était le Parti socialiste. Le rapport entre le Parti socialiste et le président n'est pas le même, par exemple, que le rapport entre le Parti les Républicains et le candidat à la présidence. C'est pas la même chose. C'est pas la même culture. Il y a une culture partisane beaucoup plus forte. Donc, il ne pouvait pas remettre en cause ça. Mais il pouvait faire quelque chose. Moi, je suis assez en désaccord sur beaucoup de points avec François Bayrou, mais il était clair que François Bayrou allait se faire battre, quel que soit le cas de figure, d'ailleurs. Il était clair que M. Hollande ne pouvait pas donner l'investiture à François Bayrou à partir du moment où le Parti socialiste avait donné l'investiture à quelqu'un d'autre, mais il pouvait le nommer ministre. C'était ça la réponse à Aubry. La politique, ça consiste quand même à sortir des Thermopyles, à sortir des impasses dans lesquelles on vous enferme, à sortir par le haut, par la porte de côté, etc. Et ça, il n'a pas du tout su le faire. Et s'il avait fait ça, je pense que le message aurait été très clair. Et de même, quand j'entends Thierry dire que Hollande s'est brouillé avec le parti, a fait une économie de l'offre en faisant ce qu'il a fait, les bras m'en tombent. Si c'est ça que ne peut pas supporter le parti socialiste, mais qui s'en aille, parce que c'est le quart de la moitié du dixième de ce qu'il faut faire, et on voit bien que année après année, mois après mois, les arbitrages budgétaires, les choix législatifs, encore maintenant, sont des choix qui sont totalement contraires à cette économie de l'offre. Là, véritablement, il fallait être très net et faire un choix cohérent, ce qui impliquait, j'en conviens volontiers, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on fasse une vraie politique de gauche sur un certain nombre de choses. Il aurait fallu définir en matière de réduction des inégalités, de promotion. Mais il ne l'a pas fait et il aurait dû carrément mettre les choses en main et dire au socialisme, si vous voulez pas, il y aura dissolution. Et puis c'est tout.
Les amis, vous caricaturez ce que je dis.
À
François d'abord, à Jean-Louis ensuite. À François, je n'ai pas dit que les personnalités ne comptaient pas. Je dis qu'on surpondère le poids de la psychologie en ce moment dans ces affaires et dans l'appréciation des choix qui ont été faits. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je la mets moins haut que vous, François. C'est ça notre différence. Deuxième point, Jean-Louis, il est évident que la politique de l'offre qui a été conduite par François Hollande était soutenue par une majorité dans le Parti Socialiste. Mais une majorité seulement. Ça ne faisait pas l'unité du Parti Socialiste. Ça appuyait sur ces divisions que vous connaissez et que vous commentez vous-même très bien, très régulièrement. Et donc voilà, il aurait pu choisir... c'était ma réponse à François. S'il avait vraiment fait une politique pour défendre l'unité du parti, il n'aurait pas fait cette politique.
Pas l'unanimité du parti, mais l'unité.
L'unité. Oui, mais enfin, il y a un tiers du parti qui est hostile à cette politique-là. C'est beaucoup, un tiers.
Dans un contexte dans lequel, par définition, les médias mettent en valeur les désaccords et non pas ce qui peut concourir. Et Mélenchon derrière. Je vous propose que nous passions à un deuxième événement qui paraît maintenant loin dans le temps, mais qui est quand même assez proche, qui est celui du résultat de la primaire de la droite et du centre, puisque dimanche dernier, après avoir remporté le second tour de cette primaire avec 66,5% des 4 400 000 suffrages, François Fillon a déclaré « Ma démarche a été comprise ». Il avait résumé cette démarche en une formule choc, « Casser la baraque pour la reconstruire autrement ». Suppression de 500 000 emplois publics, augmentation du temps de travail hebdomadaire dans la fonction publique, libre négociation du temps de travail dans le privé, diminution des charges sociales des entreprises à hauteur de 40 milliards d'euros, telles sont quelques-unes des mesures qui illustrent cette formule. S'y ajoute le projet d'une hausse de 2 points de la TVA, la suppression de l'ISF, l'application stricte de la suppression des droits au chômage en cas de refus d'emploi, la dégressivité des allocations et leur plafonnement à 75%. François Fillon ne souhaite pas abroger les dispositions qui permettent le mariage des couples de même sexe. Il projette de supprimer pour eux la possibilité d'adoption plénière. Et enfin, il souhaite le rétablissement de la double peine ainsi que des peines incompressibles. Sur le plan international, il a fait de la lutte contre le totalitarisme islamique son objectif prioritaire de politique étrangère et la base de son approche de la situation en Syrie, qu'il décrit comme divisée entre ceux qui veulent combattre ce totalitarisme et ceux qui veulent le mettre en place. Il préconise à ce titre un éloignement de l'Arabie Saoudite, à l'origine du phénomène intégriste au sein de l'islam, selon lui, et une diplomatie réaliste face aux Russes et aux Iraniens. Il s'est prononcé en faveur d'une levée des sanctions contre Moscou, de la réouverture d'un poste diplomatique à Damas, et d'une politique active de soutien aux chrétiens d'Orient. Au niveau de l'Union européenne, le candidat s'est prononcé pour l'accroissement de la sécurité, le contrôle des frontières extérieures, la maîtrise des flux migratoires et la mise en place d'une politique de défense commune. Il appelle de ses voeux la restauration de la confiance au sein du couple franco-allemand, étape indispensable à la mise en œuvre de ces politiques européennes. Le Parti socialiste a reproché aux députés de Paris d'être l'une des figures les plus antisociales de la droite. Jean-Luc Mélenchon a qualifié son programme de coup d'État social. La présidente du Front National estime qu'il s'agit du pire programme de casse sociale qui ait jamais existé. François Bayrou considère que le projet de François Fillon pose de nombreuses questions aux citoyens et à notre société. S'il n'a pas encore tranché publiquement la question de sa candidature, il a dénoncé chez Emmanuel Macron et François Fillon un même mode de pensée qui creuse les inégalités. Quant à Emmanuel Macron, il a décelé beaucoup de convergences entre son propre projet et celui du président du Modem. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, il s'est passé quelque chose de très intéressant à droite et d'assez surprenant. Alors, je crois que si on revient aux primaires, il y a deux problèmes très différents. Il y a François Fillon, est-ce que François Fillon correspondait mieux que les autres candidats à ce que pensait le corps électoral ? La réponse est indiscutablement oui. La deuxième question, c'est pourquoi, alors qu'il était relégué dans les profondeurs du classement, en troisième, voire en quatrième position, puisqu'il était à un moment dépassé par M. Le Maire, comment la logique du vote utile, qui aurait dû conduire à la polarisation exclusive entre Juppé et Sarkozy, a-t-elle volé en éclats ? Alors, c'est deux questions très très différentes. Je pense qu'elle a pu voler en éclats parce que précisément il était plus représentatif que les deux autres de la diversité de la droite, des droites françaises, mais en même temps il a fallu quelque chose de particulier. Alors sur l'aspect tactique, le second aspect, je dirais un mot, je l'ai écrit, je pense que l'élément central de l'échec de Juppé a été l'intervention de Bayrou. Je pense que Bayrou s'est adressé en termes extrêmement critiques, a critiqué extrêmement fortement Sarkozy, ce qui a provoqué le sentiment au sein de l'électorat de droite que Juppé, qui n'a pas pris ses distances par rapport à Bayrou, comme il aurait dû le faire à ce moment-là, était en fait dans une relation d'hostilité profonde à l'égard du président des partis républicains et ne jouait pas le jeu de la primaire. Si bien que ceux qui votaient Juppé par hostilité à Sarkozy ont été tentés de trouver un autre porte-parole et l'ont trouvé en la personne de François Fillon. Et en même temps, comme Sarkozy était en chute libre dans les sondages, avec la double part de frites, etc., ceux qui ne voulaient pas de Juppé parce qu'ils y voyaient le représentant d'un centriste qui était un crypto-gauchiste, je schématise évidemment. C'était perçu, pas du tout. C'est comme ça que c'était dit dans le camp sarkozyste. Je schématise, je pense pas du tout ça. Il s'est passé, ils se sont dit, il faut trouver un autre, quelqu'un d'autre. Et donc, ils ont porté leur choix sur François Fillon. Et il suffisait que ça bouge un peu pour que ça fasse un effet cumulatif. Donc là, je pense que Bayrou et Sarkozy ont joué un jeu de dupes. C'est-à-dire que l'un et l'autre ont essayé de construire un arc en éliminant Alain Juppé. C'est-à-dire, on se retrouvera après. Et en fait, ils ont été tous les deux éliminés de ce jeu. Deuxièmement, le fond. Sur le fond, je pense que Monsieur Fillon est exactement à l'équidistance, à la charnière des droites. Même, prenons la typologie classique de René Raymond, on retrouve les éléments constitutifs. Premier élément, le caractère tradit, les cathos, sens commun, etc. On se fonde un peu sur la filiation de l'ordre moral et du légitimisme, en réalité. C'est la morale chrétienne pré-révolutionnaire. Deuxièmement, sur le plan de son programme économique et social, que vous avez rappelé, qui est très libéral, à mon avis, trop libéral, pour lequel il faudra qu'il mette un peu d'eau dans son vin, eh bien, là, on retrouve la tradition orléaniste classique. Et quant à la troisième tradition qui est la sienne, qu'il a évoquée à la fin, qui est la tradition souverainiste, eh bien, nationaliste, souverainiste, c'est effectivement la droite bonapartiste. Et donc, il s'est trouvé, c'est un homme très habile, en vérité, et il s'est trouvé à la charnière de ces trois familles, qui, et c'est là où j'ai peut-être un désaccord avec Thierry, ce serait étonnant, parce que j'ai rarement un désaccord avec Thierry,
ce matin, il se multiplie.
On peut exclure qu'aujourd'hui, il y en est un. Je crois que le problème de la droite n'est pas un problème de conflit idéologique. C'est un problème de modulation et de dosage. Je crois que tout ça repose, on met un petit peu de légitimisme, un petit peu d'orléanisme, un petit peu de bonapartisme, on agite, etc. Et en réalité, il s'agit de moduler, et Fillon est un assez bon spécialiste de la modulation, et je ne doute pas qu'il va tempérer le programme qu'il a. Mais juste, je vois que...
C'est-à-dire, pour que vous soyez en désaccord avec Thierry, il faut
que
Thierry ait le temps de parler.
Oui, mais je vais juste dire encore une chose qui me concerne. La grande victime de cette affaire, c'est moi. C'est-à-dire les gens qui, comme moi...
C'est un sujet.
Oui, et non,
on verra si on ne peut pas en faire une thématique.
C'est-à-dire les gens qui, comme moi, sont pour une Union européenne sans cesse plus étroite, parce que dans ce clivage, évidemment, dans cette analyse synthétique, là, le parent pauvre, celui qui a perdu, c'est le parent centriste qui voulait davantage d'Europe. Et là, je suis donc, de ce point de vue-là, une victime de l'habileté de M. François Fillon.
C'est la vigueur.
Alors moi, je vais apprendre le phénomène par un autre angle, tout d'abord parce que nous avons des élections en France et en Allemagne pour une fois la même année, et on regarde d'un coup de l'Allemagne la France avec envie. quel changement qui s'opère. Le fait que François Fillon soit élu avec ce programme de réforme aussi radical, ça, on n'a pas encore réussi à faire ça. Je rappelle la campagne désastreuse de Madame Merkel en 2005, où elle avait justement un peu un programme filloniste, où elle voulait introduire une flat tax. Ben, elle a été ratatinée aux élections, au point que le chancelier sortant Schröder a quasiment fêté sa victoire, alors qu'il avait quand même perdu. Mais donc, je rappelle aussi que Gerhard Schröder ne s'est pas fait élire sur un programme de réforme. Il a gagné grâce à la menace d'une guerre en Irak, et il avait justement trouvé une alliance avec Chirac pour dire la paix, la paix. C'est ça qui l'a fait réélire, et tout le monde était très surpris que, au début de son deuxième mandat, d'un coup, il développe cet élan réformateur. Donc, chapeau de gagner des primaires avec un programme aussi radical. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Alors, il y a en Allemagne un scepticisme assez fort concernant les penchants russes ou souverainistes, on peut le désigner comme on veut, du candidat Fillon, parce que on a l'impression que déjà sur les élections aux États-Unis et le succès de Trump, il y avait comme une main invisible quand même des poutinistes qui jouaient un rôle. Et on a l'impression maintenant, l'autre grand partenaire de l'Occident, de l'Allemagne, pourrait tomber en quelque sorte sous ce charme du régime poutinien. Alors c'est probablement exagéré. Moi, personnellement, je pense que c'est exagéré. Je pense que c'est plutôt que Fillon exprime un courant très très présent dans la droite française, qui est justement un peu le refus, ou beaucoup le refus de l'Europe intégrée, et un retour vers cette Europe des nations. D'ailleurs, c'est parlant, il veut pas de sortie de l'Europe, mais il veut que ça devienne un cercle où c'est les chefs de gouvernement et les présidents qui décident, c'est-à-dire plus d'Europe communautaire, un retour vraiment des nations. Et ça, effectivement, Madame Merkel, elle n'est pas très sûre comment elle doit réagir à ça. Alors elle s'est dit, si la France se réforme, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et pour le reste, on verra.
François Bujon de l'Étang.
Moi, je crois que François Fillon, c'était une très grande surprise que cette victoire écrasante qu'il a emportée à la primaire, mais que au fond, c'est l'incarnation d'un changement profond au sein de la droite française. Voilà un candidat qui dit qu'il veut changer le logiciel de la droite. Ce sont ses propres mots, n'est-ce pas? Il est un candidat de rupture et il se présente comme un candidat de rupture. On a vu ça dans d'autres pays qu'il a étudié, d'ailleurs, dont il a étudié les réformes. Il cite volontiers le Canada ou la Suède, qui sont des pays qui ont fait des réformes tout à fait radicales comme celles qu'il préconise. Mais la rupture, elle est essentiellement pas tellement avec Sarkozy, dont le caractère bonapartiste de l'aventure personnelle est très, très unique, mais elle est surtout contre tout ce que j'appelais tout à l'heure le chiracisme, ou la chiraquie. C'est-à-dire que la droite à la Chirac était une droite qui n'osait pas s'affirmer de droite et qui tenait un langage de gauche ou incorporait des valeurs de gauche dans son discours. Au fond, François Fillon, qui est conservateur et libéral, entend revenir à ce qui était les sources de la droite. Et cette droite-là, qui s'affirme conservatrice et libérale, elle a existé, disons, jusqu'à genre, elle a surtout existé au XIXe siècle. Les racines sont évidemment Tocqueville, Guizot, Taine. Mais au XXe siècle, elle a été incarnée très largement par Georges Pompidou. En ce sens, paradoxalement, il se situe plus dans la filiation de Georges Pompidou que ne l'était Chirac, dont le côté radical socialiste et héritier d'Henri Queuil l'a emporté finalement très largement sur les valeurs de droite. Et c'est, je crois, ce qui fait la valeur de cette espèce de révolution idéologique au sein de la droite française qui est en train d'accoucher de François Fillon.
Thierry Pêche. On dit François Fillon ou Fillon?
Je crois qu'on dit Fillon, mais
on dit Mitran ou Mitterrand.
Voilà. Oui, on n'a jamais tranché dans ce genre de débat.
Donc pour François Fillon,
c'était Giscard ou Destin.
C'est ça le charme de la France. En Allemagne, il n'y a qu'une seule prononciation pour Angela Merkel.
Bon, pour François Fillon, ses primaires sont une entrée en mêlée réussie, c'est l'évidence. Moi, j'ai toujours cru que la droite adopterait les primaires. Je ne suis pas surpris, c'est un succès. La droite, à travers les primaires, à travers la manif pour tous, retrouve des plaisirs militants, ou découvre pour une partie de son public des plaisirs militants qu'elle ignorait et qui sont dans la culture traditionnelle de la gauche. Donc bravo, c'est une manifestation démocratique.
La droite, hein.
La primaire,
oui.
Oui, alors ça, c'est de l'archéologie pré-jurassique. La réalité, c'est que c'est Olivier Ferrand et Arnaud Montebourg qui l'ont imposé concrètement. Donc, bravo pour ce point. Mais la primaire, c'est un bocal magique, mais c'est un bocal. Quand on regarde qui a voté à la primaire, beaucoup de monde, certes, mais en réalité, une fraction de la société française assez déterminée. C'était le cas aussi, d'ailleurs, dans la primaire de gauche en 2011. Hein. C'est un électorat plutôt âgé, plutôt urbain, plutôt diplômé, et c'est pas du tout un électorat populaire. Et là, autant pour la primaire de gauche, c'était plutôt la bourgeoisie bohème des métropoles qui s'était déplacée, autant là, c'est la bourgeoisie pas bohème, comme a dit Alain Lipietz dans un très bon papier, c'est-à-dire la bourgeoisie classique, plutôt celle des films de Chabrol, si vous voulez, plutôt une bourgeoisie à patrimoine, une bourgeoisie cossue. C'est ça qui ressort, si vous voulez, des premières enquêtes, et une bourgeoisie qui s'habille bien pour l'hiver, en effet. Donc, c'est ça qui ressort des premières enquêtes sociologiques.
4 400 000 cossus, ça fait quand même beaucoup.
Ça fait beaucoup de monde,
cossus.
Absolument. Non, non, mais
on avait oublié. Ça fait beaucoup de cossus, surtout.
Mais non, Philippe, attention. On avait oublié que cette bourgeoisie existe. Chez les petits éditorialistes du Figaro Vox, qui nous envoyaient à la figure pendant des mois et des mois, depuis plusieurs années, l'idée que, finalement, la vie politique, c'était l'affrontement des bobos de gauche, de la bourgeoisie bohème contre le peuple. Ils avaient oublié, dans ce récit idéologique, dans cette France telle que l'a décrit Guy Louis, qu'il y a un troisième morceau, qui est la bourgeoisie pas bohème, qui existe aussi, et qui est beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pense. Donc ça, c'est un premier point. Moi, ce qui me frappe chez Fillon, je préfère vraiment Fillon à Sarkozy. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Sarkozy, c'était quand même beaucoup plus hystérique. Bon, mais ce qui me frappe chez Fillon, c'est que c'est l'homme de la radicalité floue. Il arrive devant ses électeurs, il dit « Alors moi, ça va être carré, vous allez voir, ça déménage, je vais casser la baraque pour tout reconstruire. » Et puis quand on regarde, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut reconstruire. 500 000 fonctionnaires, c'est beaucoup, c'est sans doute trop, Juppé lui a dit, il avait raison me semble-t-il, mais on ne sait pas où il veut supprimer des fonctionnaires. C'est quand même ça maintenant qu'il va falloir expliquer aux Français. Une allocation sociale unique veut-il ? Très bien. Mais qu'est-ce qu'il veut fusionner ? Il y a une page et demie dans son livre et pas beaucoup plus dans son programme. On n'en sait rien. Et la vérité, c'est que la seule chose qu'on sait, c'est qu'il veut fusionner les APL avec la prime d'activité et le RSA. Eh bien, bonne chance, parce que toucher aux APL, c'est coûteux, y compris électoralement. Sur la santé, que veut-il exactement ? Il n'a cessé de reculer depuis son élection. C'est l'homme de la radicalité floue. Et moi, ça me pose quand même une sérieuse question. Parce que je pense que tout ça prend le même chemin qu'on critiquait pour la gauche en 2011. On vend de la radicalité, et puis après, on se retire dans l'ordre de la discipline dans les premières années du quinquennat, et on fait des déçus. Parce qu'en attendant, si vous voulez, il y a des gens qui sont en train de grimper au rideau et d'y croire à cette radicalité.
Donc, d'après vous, Thierry, le slogan pour Fillon et les fillonistes, c'est les cossus au balcon, si j'ai bien compris. Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi, dans la radicalité floue, je préfère le flou.
Ça, c'est une nouvelle.
Non, mais je crois d'ailleurs que vous n'aurez pas cette déception. Je pensais, vous avez tout à fait raison dans votre portrait. Fillon est un homme extrêmement pragmatique et d'ailleurs, il a défini une méthode qui n'est pas mauvaise, qui consiste. Je me suis demandé comment il allait passer. Tout le monde a dit, Juppé a fait le mauvais programme. Il a fait un programme pour les primaires. Il a fait un programme pour la présidentielle alors qu'il était candidat aux primaires. Tandis que Fillon, beaucoup plus malin, a fait un programme pour les primaires alors qu'il est candidat aux primaires. Et ça sera donc pas le même au présidentiel, ce qui est quand même un peu immoral, il faut dire. C'est effectivement l'apologie du flou. Et on peut se demander comment il va passer de l'un à l'autre. Il va passer de l'un à l'autre. Pas du tout en trahissant, mais en amodiant, en limitant, et en se mettant sur la ligne à peu près celle d'Alain Juppé, dont j'ai toujours trouvé que Juppé n'était pas du tout un mou, et que ce qu'il aurait fait, s'il avait été élu, il aurait tenu ses engagements de façon non floue.
Je ne vous croyais pas l'ami des ambiguïtés. Vous avez beaucoup. Je ne vous croyais pas l'ami de ce genre d'ambiguïté.
Écoutez, vraiment, si on n'aime pas l'ambiguïté en politique, il faut vraiment arrêter de faire de la politique. En l'occurrence, comment va-t-il faire ? Il a annoncé, je crois que c'est une méthode assez intelligente, on va voir ce que ça donnera. Il a dit qu'il allait nommer des ministres dès maintenant. Il allait faire son gouvernement avec 6 mois d'avance. Et il va donc demander à ses ministres de se mettre en liaison avec un certain nombre de gens. Alors on aura M. de Castres, quelques autres, etc., qui vont se promener dans
Monsieur
la société.
Larcher, pour ce qui est pour la négociation avec les syndicats, M. Larcher.
Oui, et ensuite ils vont revenir en disant bah, ça passe pas, etc. Donc il va faire son. Il va sans doute faire son contrat, son adaptation avant la présidentielle. C'est pour ça que je crois que la gauche se trompe complètement en faisant comme Mme Touraine des espèces de chiffrages complètement absurdes sur le coût de l'assurance maladie. Ça va pas se passer comme ça. C'est pas là que sera le problème pour Fillon. Je crois que le problème pour Fillon, c'est que... Et alors, la deuxième erreur qu'implique c'est l'erreur du New York Times qui a fait une complètement incroyable en disant vague populiste en France.
Oui, absurde.
Alors, c'est vraiment le contraire. Oui. Je pense que ce qui caractérise, et c'est là où je me méfie de l'idée de rupture. Je comprends bien ce que dit François Bujon de l'Étang quand il dit qu'il y a rupture. Il y a rupture parce qu'il y a une certaine volonté de rompre avec ce conservatisme fétide, pénible, cette chape de plomb qu'on a depuis Mitterrand, Chirac, personne n'a rien changé à rien, personne n'a fait la moindre réforme. Mais en revanche, je crois justement, et c'est la filiation avec le livre de René Raymond, je pense qu'il y a un enracinement respecté de la droite française. L'un des problèmes que posait Sarkozy, et c'est l'une des raisons pour laquelle il a été viré, c'est qu'il ne respectait pas les codes de la droite française et que les gens étaient déboussolés. Et face à cet enracinement, le parti des déracinés, c'est-à-dire le Front National, n'est pas très à son aise.
François Bujon de l'Étang.
Je suis content que Jean-Louis ait au passage dénoncé la ligne du New York Times, qui est absurde. J'ai été choqué, effectivement, des reportages du New York Times sur François Fillon, présenté comme l'équivalent...
Le New York Times avait trouvé des armes de destruction massive en Irak. C'est pas étonnant qu'ils trouvent le populisme
triomphant. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ils n'ont pas trouvé d'armes de destruction massive contre Trump, par exemple.
Vu comme ça, c'est vrai. Mais présenter François Fillon comme l'équivalent français du Brexit ou de M. Trump et comme la vague populiste, c'est absurde. Je préfère citer le Frankfurter Allgemeine. J'ai pas besoin de dire, évidemment, ici, devant Michaela, à quel point c'est un journal qui fait autorité. Le Frankfurter Allgemeine écrit « La version française de la révolte contre la classe politique porte désormais le nom de François Fillon. C'est vrai à droite. »
Thierry Pêche.
Je m'excuse.
Tu veux me contredire, là?
Bon, bref. Non, je voudrais revenir sur une question qu'a posé Jean-Louis. Pourquoi avons-nous cru tous ici, je crois que la primaire de droite se résumerait à un affrontement entre Juppé et Sarkozy. Et pourquoi pouvions-nous penser d'ailleurs que Juppé en sortirait vainqueur? Parce qu'on réfléchissait, je crois, avec les outils de 2011. Mais il y a une vraie différence que j'ai comprise, moi, après, qui est très simple en réalité. C'est qu'en 2011, les électeurs de gauche, ils étaient incertains de leur victoire. Et donc, ils ont acheté celui qui faisait gagner. Pas forcément celui avec lequel ils étaient d'accord. Alors qu'en 2016, les électeurs de droite pensent qu'ils vont gagner et ils ont voté avec leurs convictions.
Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je rappelle donc que la semaine prochaine, nous sommes en direct et en public et que toute personne qui veut assister à l'émission peut s'inscrire sur le site www.maisondelaradio.fr. Et je signale aussi, on a appris la mort de Rémi Pfimelin, qui était un homme du service public, qui a fait ce qu'il a pu quand il a eu la présidence de France Télévisions. Ça m'a donné l'idée de recommander la lecture d'un livre de quelqu'un qui a été son collaborateur, et ici le dernier directeur de France Culture à s'inscrire dans la tradition qui remonte à Jean Tardieu et qui allait jusqu'à Jean-Marie Borzec, ce Bruno Patino. Et Bruno Patino a écrit un livre de réflexion sur la télévision après qu'elle n'ait plus le plus grand dénominateur commun. Qu'est-ce qui se passe? Ce livre s'intitule Télévision et il est publié chez Grasset. Jean-Louis Bourlange.
Oui, bah écoutez, ça va être la semaine de René Raymond pour moi, parce que dans le cadre de la préparation d'une émission que nous allons faire plus tard sur un aspect de la politique américaine, j'ai acheté et lu le livre de René Raymond, Histoire des États-Unis. C'est un livre de 150 pages. Et je voudrais dire que là, on est quand même en face d'un grand chef-d'œuvre de l'historiographie française, sobriété, précision, nuance, clarté, en si peu de pages, un message aussi nuancé et complet, c'est quelque chose qui mérite d'être salué. C'est la grande tradition Sciences Po, après la grande tradition de France Télévisions, que vous venez de France Culture, que vous venez de rappeler.
Thierry Pêche.
Si vous permettez, Philippe, je vais vous parler d'un problème dont tout le monde se fout. La semaine dernière, on a eu des résultats climatiques sur ce qui se passe au-dessus du pôle Nord. Il y a 15 à 20 degrés de plus que la moyenne à la même période, et la banquise du pôle Nord n'a jamais été aussi réduite. Voilà, tout le monde s'en fout, et c'est très grave. Et je pense que vraiment, non seulement il faudrait parler de l'Europe, comme le dit Jean-Louis, mais il faudrait vraiment redonner leur place aux enjeux écologiques dans cette campagne, qui ont totalement sombré, totalement disparu, et face auxquels on se réveillera candide dans quelques mois.
Bah, marginalement, il y a un petit film qui vient de sortir cette semaine qui s'appelle Le Voyage au Groenland, qui n'est pas là sur ce sujet-là, mais qui se passe au Groenland et dont je dis du bien sans excès, mais du bien. Pardon, François Bujon de l'État.
Il faut aussi, Thierry, que vous convainquiez M. Trump, au passage. Moi, je voudrais souligner un livre...
Je vous ai déjà convaincu, François.
Un livre... Ne me mettez pas dans le même sac. Un livre de Jean-Philippe Vincent qui s'intitule « Qu'est-ce que le conservatisme ? Histoire intellectuelle d'une idée politique » et qui vient de paraître aux belles lettres. C'est un livre qui entre parfaitement en résonance avec la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre. Et c'est un livre écrit par un économiste, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, qui montre que le conservatisme est bien le complément du libéralisme. Puisque, contrairement à ce que l'on pense, ou à ce que pense un vain peuple, le conservatisme, ce n'est pas le traditionnalisme, ce n'est pas la réaction, ce n'est pas la contre-révolution, mais c'est bien l'idée de perpétuer le meilleur de la tradition par les réformes qui peuvent s'imposer. Et ce livre est d'une lecture, je crois, très édifiante par les temps qui courent.
Michael Avigal.
Et moi, je voulais me réjouir qu'une belle tradition allemande qui consiste à jouer l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach a pris racine maintenant aussi à Paris et dans les alentours. J'ai recensé, c'est très long, hein, mais c'est très joli, et j'ai recensé...
D'accord que Bach est une bonne marque.
Au moins trois Weihnachtsoratorien. Et donc, je trouve que c'est assez remarquable, puisque quand je suis arrivée à Paris, j'étais désespérée de ne pas trouver aucun endroit où on allait pouvoir écouter ce très beau oratorium qui, sans vouloir parler des racines chrétiennes, est devenue une tradition laïque en Allemagne, en quelque sorte.
Il faut dire que la vie musicale française est quand même une des choses... La musique et le vin sont les deux domaines dans lesquels, en France, on a fait beaucoup de progrès. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec Alain Crugère pour son émission « On ne parle pas la bouche pleine ». Il a aujourd'hui invité un ingénieur agronome et chercheur à l'INRA de San Giuliano, en Corse, Jan Frölicher, qui va évoquer avec Alain la richesse et la diversité des agrumes de l'île de Beauté. C'était donc L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Je vous rappelle donc que vous pouvez assister la semaine prochaine à l'émission en direct et en public en vous inscrivant sur le site www.maisondelaradiosansseparation.fr. J'espère de toute façon, en chair, en os ou bien à travers les ondes, vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit public.